Merci Xavier, merci Daniel pour cette opportunité. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. J'aime ça. C'est ma passion de louer Dieu, de vivre pour Dieu, de vivre avec lui et de pouvoir ensemble, non seulement avec les équipes de louange, mais avec l'Église aussi, de pouvoir comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés, ce qu'il attend de nous. Et je crois que juste, c'est pas quelque chose qui est limité à une équipe de louange, mais c'est juste le rôle de chacun d'entre nous, de louer Dieu, de l'élever, de le glorifier. J'aime à le dire, quand on est dans une église, enfin l'église c'est nous, hein, bien évidemment, et quand on chante, je le dis aux musiciens, l'auditoire c'est pas les chrétiens, c'est pas nos frères et sœurs, l'auditoire c'est Dieu. Et on est tous acteurs, on n'est pas spectateurs. Alors j'ai bien aimé, j'ai juste regardé vos annonces et j'ai vu que vous aviez repris un truc que j'avais dit dans un message, c'est-à-dire que, et c'est vrai, c'est vrai, la louange est la seule chose que nous faisons ici-bas et que nous allons continuer de faire là-haut dans le ciel. Nous n'aurons plus besoin de prier, puisqu'il n'y aura pas de sujet. Nous n'aurons plus besoin de témoigner, puisque tous ceux qui seront là seront ceux et celles qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus. Et j'espère bien que chacun d'entre nous ici sera avec nous là-haut. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine et lui dire, écoute, j'espère vraiment que tu seras avec moi là-haut, parce que ça va être génial, ça va être super. Surtout, faut pas que tu sois ailleurs que là-haut avec moi. Mes amis, si vous n'avez pas encore cette assurance, si vous n'avez pas encore vous-même fait le pas de croire, je vous parle pas ici d'une religion, on l'a entendu, Dieu est un père, Dieu est un ami, Dieu est quelqu'un qui est avec nous, qui nous aime, qui t'aime tel que tu es, et il veut juste que tu puisses vivre ici-bas et que tu puisses vivre jusque dans l'éternité avec lui. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous qu'est-ce que c'est que l'adoration? Le PowerPoint va s'afficher ici. Et non seulement, comme un terme, des fois on se pose, est-ce qu'il y a une définition? Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je prends l'adoration comme un mode de vie. Et on va le voir ensemble. Vivre l'adoration, vivre une vie d'adoration. Vous savez, tout le monde adore quelque chose ou quelqu'un. Parce que le fait d'adorer est dans notre ADN. Dieu nous a créés comme cela. Nous sommes des adorateurs, tous ici. Ça dépend ce qu'on adore. C'est facile de savoir ce que les gens adorent d'après leur façon de vivre. Dans quoi est-ce qu'ils dépensent leur argent? De quoi parlent-ils? Quand vous les rencontrez, vous allez tout de suite savoir quelque chose, pourquoi les gens vivent leur passion, le sport, la musique, l'art, la philosophie, que sais-je, Dieu, la Bible, bref, il y a toutes ces choses. Comment est-ce qu'ils dépensent leur argent? Et là, on va le voir. Alors c'est vrai, souvent on parle de l'adoration, d'adorer des idoles, on voit le côté religieux où dit on a des personnes qui adorent telle personne, tel saint, tel autre. Mais vous avez des gens qui adorent leur argent. Et ouais. Ils veulent surtout pas, ils veulent le garder, thésauriser, ils veulent surtout pas donner. Ça s'appelle, je sais pas si vous avez vu ce film-là avec Danny Boone, ça s'appelle Radin. C'est si jamais vous l'avez pas vu, regardez, vous allez tout comprendre tout de suite ici de quelqu'un qui adore son argent, etc. et tout. Bon, il y en a d'autres qui adorent leur voiture. Ils bichonnent leur voiture, c'est une belle voiture, elle est clean, elle est géniale. Des fois, il habite dans un taudis, mais il a une belle caisse, il a une belle bagnole, etc. et tout. Et il frime devant les autres parce qu'il a sa belle voiture. Bon, d'autres adorent la dernière star du showbiz ou le dernier foot qui est arrivé, enfin pour nous PSG, voilà, enfin je sais pas pour vous quel est votre club de sport, mais il y a même un parfumeur qui a mis cette appellation sur son parfum, qui s'appelle, ok, mesdames, mesdemoiselles, c'est celui que vous portez sûrement, je sais pas. Mais on voit, ici il y a quelque chose. Le problème avec ce type d'adoration, c'est que les voitures, ça tombe en panne, c'est que le parfum, ça s'use, c'est que les stars, ça passe, c'est que la beauté, c'est un peu comme la salade ou les fleurs, ça fane avec le temps, même si on essaye des fois de faire un peu des ravalements de façade, et il y en a qui s'utilisent bien pour faire ça. Mais bref, tout ça passe. Non, ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est qu'est-ce que c'est que la véritable adoration ? Qu'est-ce que ça signifie vivre une vie d'adoration ? Donc, on va aborder trois questions. Premièrement, qu'est-ce que l'adoration ? Deuxièmement, pourquoi je dois adorer ? Et troisièmement, comment le faire ? Parce qu'il faut que ce soit quelque chose de pratique. Qu'est-ce que l'adoration ? On a ici notre question. J'en ai pas parlé avec les musiciens hier, puisqu'on en parlait ici, donc tout le monde est au bénéfice. L'adoration n'est pas juste un style de chant du dimanche matin. Genre un chant lent, etc. Combien Dieu est grand. Oui, c'est beau, c'est bien évidemment, puisque la musique, nos chants, consistent à glorifier Dieu. Mais ce n'est pas juste ça, l'adoration. Comment définir l'adoration ? C'est assez difficile parce que c'est une notion divine. Donc, on le voit ici dans le livre de Matthieu, on va l'afficher, au chapitre 4, verset 10, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, dites-le avec moi, lui seul. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu nous appelle, nous demande l'exclusivité. Vous allez dire, oh, il exagère un petit peu. Très simple. Quelles sont ici les personnes qui sont mariées ? Les hommes, les femmes qui sont mariées ? Allez, levez la main bien haut. D'accord ? Ok. Quels sont ceux qui sont célibataires encore ? Ok. D'accord ? Ça, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais en même temps, vous allez comprendre. Mesdames, est-ce que vous accepteriez de prêter votre mari une seule journée dans l'année ? Une journée à une autre, peu importe. Quelle est la femme ici qui accepterait ça ? Okay, il n'y a personne qui lève la main, ça me rassure. Messieurs, est-ce que vous accepteriez de partager votre épouse une demi-journée avec quelqu'un d'autre ? Oui ? Non ? Non, c'est les femmes qui répondent. Et j'en ai meilleurement entendu les hommes. Dis non, attends. Pourquoi ? Parce que c'est ma femme ou parce que c'est mon mari. C'est l'exclusivité. Il est pour moi toute seule ou pour moi tout seul. Et on est capable de comprendre ça. Et Dieu nous dit, mais voilà, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que toutes les fois où je me sers moi, toutes les fois où je fais quelque chose, où je vis quelque chose qui n'est pas dans l'objectif de servir Dieu, de l'adorer, je suis, entre guillemets, infidèle. Qu'est-ce que c'est que d'être un adorateur ? C'est être passionné par Dieu. J'ai parlé tout à l'heure, l'adoration, c'est quelque chose qui passe en premier. C'est une passion. J'ai parlé hier de ça avec les musiciens, l'équipe Louange. C'est être passionné par Dieu. Est-ce que Dieu te passionne ? Question. Est-ce que je vis tout pour lui ? Tout pour lui. Bien souvent, on sectorise un petit peu notre vie. On peut passer sur le prochain. Et on est là, passer d'une adoration sectorisée à une adoration intégrée. C'est-à-dire avec le premier, on va voir ici. On peut, et souvent, les chrétiens sont comme ça, il y a tout ce qui est ma vie spirituelle. Et là, c'est ça, je suis là le dimanche, je suis là dans les réunions, j'ai toute une partie. Et c'est un secteur, c'est une partie de ma vie. Et puis, à côté, il y a mon boulot, il y a mon travail, il y a ma vie professionnelle. Après, à côté de ça, il y a mes finances, il y a mon budget, il y a toutes les choses. Ma vie sociale, mes amis, mes loisirs, les choses comme ça. Ma famille, très important. Et on est dans ces choses-là, les loisirs, la détente. Bref, on est sectorisé et on vit comme ça, avec chaque chose. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, on le voit ici, c'est que ma vie spirituelle, c'est-à-dire que ma foi, c'est-à-dire que mon adoration impacte tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que j'adore Dieu dans ma vie sociale quand je suis avec mes amis. J'adore Dieu quand je suis dans mes loisirs, quand je suis au cinéma, quand je regarde. J'adore Dieu quand je travaille et quand j'ai du relationnel avec mes collègues de travail. J'adore Dieu dans mes finances, dans le sens où je l'honore avec ce qu'il me donne pour l'honorer, pour son service, pour lui. Tout est là. Ça, c'est l'adoration. C'est-à-dire que, quelque part, Dieu ne fait pas partie de ma vie. Il est ma vie. C'est ce que Paul disait. Paul, l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie. Il ne fait pas partie de ma vie. Il est ma vie. Je vis pour lui. L'adoration, c'est un amour fou. C'est une obéissance extrême. C'est que même si je ne comprends pas, j'obéis à Dieu parce qu'il est bon. C'est une conversation, c'est un relationnel, c'est un contact entre l'Esprit de Dieu et moi. Justement, Dieu ne veut pas que je sois étranger de sa présence, mais Dieu veut que je puisse le connaître, que je puisse l'adorer. Le verbe adorer dans le texte original en hébreu se dit shaka. Ça veut pas dire grand-chose pour nous, peut-être, mais il est utilisé plus de 170 fois dans l'Ancien Testament et il a souvent cette traduction de se prosterner ou de s'incliner ou même de se jeter face contre terre devant quelqu'un. C'est-à-dire que adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de moi, c'est reconnaître sa supériorité, c'est reconnaître sa grandeur, comme on l'a chanté, c'est reconnaître son règne, c'est reconnaître que je dépends de lui. Et je voudrais vous donner trois exemples d'adoration. Et vous allez voir que c'est très, très pratique dans les circonstances de la vie. Le premier exemple d'adoration est celui que j'appelle l'addict de la présence de Dieu. C'est tous les jours, lui, c'était « je veux te voir, je veux te sentir ». C'est quelqu'un qui a soif, qui a faim de la présence de Dieu. Pas une journée dans sa vie, il ne vivait sans avoir ce contact. Cet homme s'appelait Moïse. Et même cet homme allait, parce qu'il y avait un lieu, d'ailleurs qu'on appelait la tente de la rencontre. C'est là qu'il était avec Dieu, c'est là qu'il rencontrait, c'est là qu'il voulait parler, c'est là qu'il avait de la conversation, c'est là qu'il discutait avec lui. Quand vous lirez son histoire, vous verrez que même Dieu parle à un moment donné, il est dit bouche à bouche avec lui. Quand il est bouche à bouche, c'est quelqu'un, c'est une proximité, c'est une intimité qui est forte. Dieu dit même de lui, tu as obtenu ma faveur. Et cet homme, on pourrait dire, et là, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu quand il a reçu les tables de la loi pour le peuple d'Israël à l'époque. Et même quand il a vécu tout ça, on lit dans le livre d'Exode au chapitre 33, Moïse vient et il dit à Dieu, imaginez, il a connu tout ça, et il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Comme si on disait, non mais attends, t'as vu déjà ce que t'as connu ? Moi, si je connaissais 10% de ce que toi as connu, je serais content. Lui, il dit, non, non, je veux connaître. Addict de la présence de Dieu. Est-ce que tu connais la présence de Dieu ? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu ? Est-ce que tu veux la présence de Dieu dans ta vie ? Pas seulement le dimanche matin, à chaque jour, dans chaque circonstance. Le deuxième cas d'adoration, d'adorateur, c'est celui qui a un abandon total à la souveraineté de Dieu. Cet homme s'appelle Job. Il nous est dit dans le livre de Job au chapitre 1er et au verset 20, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, il lui arrive une série de catastrophes, la loi des séries. Je ne sais pas comment un homme peut supporter tant de choses, mais dans la même période, il est ruiné dans ses entreprises, il est ruiné dans ses affaires. Ses enfants meurent dans un éboulement, dans un écroulement d'un bâtiment où ils sont. Il perd sa santé. Bref, c'est la totale. Tu peux te dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il est tellement déchiré en lui qu'il ne comprend pas les choses. Mais il nous est dit, dans Job, au chapitre 1er, verset 20, il est dit, « Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. » C'était un signe extérieur d'une misère, d'une détresse, d'une souffrance extrême quand il était là. Et il est dit, « Puis, se jetant par terre, il se prosterna, avec le même terme qui était, on pourrait mettre, et il adora. On peut se dire, comment est-ce que je peux adorer Dieu dans de telles circonstances? Ce serait tout le contraire qui pourrait me pousser à lever le poing pour Dieu, dire, si tu existes, pourquoi est-ce que tu fais les choses? Absolument pas. On l'a chanté tout à l'heure. Il a dit, tu donnes et tu reprends, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous, on le chante. Lui, il l'a vécu. Et je dis, c'est fort. Ici, parce que là, on a un exemple d'une adoration extravagante, forte. En parlant d'adoration extravagante, le troisième exemple est celui d'une confiance illimitée. Et celui qui a mis une confiance illimitée en Dieu est Abraham. Abraham, c'est ce que j'appelle l'adoration extravagante. Qu'est-ce que ça veut dire, extravagant? Ça veut dire hors des sentiers battus. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas courant, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ce qu'a fait Abraham dans les choses et dans les choix très difficiles. Pour ceux qui connaissent, vous savez que Abraham avait reçu le fils de la promesse, Isaac. C'était le choix, la promesse que Dieu lui avait faite. Et puis un jour, Dieu fait un test avec lui. Et il lui dit, est-ce que tu es capable de me donner ton fils, le fils de la promesse? Wow, imaginez un peu ça. Dit, est-ce que Dieu est Dieu comme ça pour donner une promesse et puis me dire après, mais Abraham a confiance en Dieu. Et il dit, tu m'as donné une promesse, ok, si tu me le demandes, je peux te le rendre. Et il y a quelque chose de très significatif, parce qu'à un moment donné, Abraham est là avec son fils, avec l'âne, il porte le bois pour le sacrifice, pour l'autel et tout ça. Et il a des serviteurs avec lui sur la route et à un moment donné, il les laisse en bas et il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Genèse chapitre 22, verset 5. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. On sait tous ce que ça signifiait pour Abraham. L'adoration, ici. Mais c'est que lui, il offrait et il donnait même la plus chère des bénédictions que Dieu lui avait données. Mais ce qui est très fort, ici, c'est ce que Abraham dit à ses serviteurs. Il dit, « Et nous reviendrons auprès de vous. » Dieu lui demande un sacrifice, l'offrande de son fils. Et Abraham dit à ses serviteurs, nous montons pour adorer, mais on va redescendre, tous les deux. Ça veut dire qu'Abraham était conscient que Dieu lui avait fait une promesse. Et que même s'il fallait qu'il offre son fils et qu'il donne ce qu'il avait le plus cher, Dieu allait lui rendre d'une manière ou d'une autre. Si bien qu'il a confiance en son Dieu. Il lui fait confiance et il lui dit. La véritable adoration, c'est vrai, ça définit toute définition parce que c'est quelque chose qui s'expérimente dans la vie de tous les jours. L'adoration pour Dieu n'est pas juste quelque chose que l'on fait machinalement. L'adoration, c'est pas juste venir à l'église, c'est pas dire juste au culte, c'est pas juste venir chanter, c'est pas juste venir prier, mais c'est parce qu'on peut chanter, même prier, extérieurement, et être complètement déconnecté dedans. Parce que c'est de la religiosité. Parce que c'est l'habitude. Parce que je fais ça depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus. Ésaïe 29, verset 13, dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la question qui nous interpelle ce matin, c'est « Où est mon cœur pour adorer Dieu ? Je suis où ? Qu'est-ce que Dieu est pour moi ?» Vous avez des gens qui sont des religieux, qui prient plusieurs fois par jour et pourtant ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que c'est juste de la religion. L'adoration authentique, c'est quelque chose qui est là dans le fait de chercher et de vivre avec Dieu. C'est attribuer à Dieu de la valeur. Quand vous avez quelque chose de valeur, vous y faites attention. Vous êtes d'accord avec moi? On y fait bien attention. Quelle valeur a Dieu pour moi? Comment est-ce que je le vois? Quelle valeur a-t-il à mes yeux? Et c'est clair que ça ne va pas juste se manifester quand je viens avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes amis, mais ça va se manifester dans ma vie de tous les jours, par nos actions, par notre style de vie. Et c'est ça qui va confirmer mes dires. Est-ce que j'adore Dieu tous les jours ou seulement quand je viens avec les autres? C'est un petit peu comme ça, je suis marié, bien évidemment avec mon épouse, et puis c'est comme si quand j'étais devant vous, je lui fais des bisous, je la prends pour le cou, je l'appelle ma chérie, etc. Et tout, je dis, ah, c'est super, il s'aime bien cela et tout, c'est génial. Et puis quand j'arrive à la maison, on est à table, et puis je la regarde, puis j'ai fait, passe-moi le sel. C'est un peu comme ça. On peut être comme ça aussi et dans l'église. Je t'aime, Seigneur, je te bénis, je chante ton nom et tout. Puis à la maison, en dehors, il n'y a plus rien. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, etc., etc. Bref. J'ai vu un jour, c'était dans un match de basket. Ça se passe aux États-Unis. Et vous savez, dans un peu comme nous chez le foot, il y a la mi-temps, il y a aussi il y a aussi une mi-temps aussi dans les matchs de basket. Et puis à ce moment-là, souvent vous avez des spectacles, vous avez des fanfares. Enfin, j'ai l'occasion d'aller aux États-Unis et de voir ça. Et puis vous avez les pom-pom girls qui arrivent sur le parquet, puis qui dansent, puis qui font un. Il y a tout un système. Et ça, on voit ça dans le reportage. Et à un moment donné, pendant que ils terminent juste là le spectacle, t'as un des joueurs qui revient, et puis il est en train de courir, et il vient, il arrive sur le parquet et tout, et il se met, tout d'un coup, il se plante devant une fille, il se met à genoux devant elle, et puis de son short, il sort une petite boîte, et il ouvre une boîte avec une bague magnifique devant la fille. Et la fille, elle est là. Devant des milliers de spectateurs. Waouh, quelle déclaration d'amour! C'est magnifique, c'est génial! Mais il ne faut pas que ce soit juste un jour. Il faut que ce soit tous les jours, comprenez? Et des fois, on est capable de dire, Dieu, oui, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, tout. Puis après, il n'y a plus grand-chose. Ce que Dieu désire avant tout dans l'adoration, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est notre intimité, c'est notre relationnel. Dieu ne veut pas juste quelque chose. Pourquoi, deuxième thème, pourquoi est-ce que je dois l'adorer? Simplement parce que l'adoration me place sous le trône de Dieu. C'est une position spirituelle. L'adoration ne se fait pas pour le bénéfice de Dieu, on va y venir un petit peu tout à l'heure, mais il se fait pour le nôtre. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Vous savez, Dieu n'a pas une mauvaise image de lui. Dieu ne manque pas de confiance en lui. Dieu n'est pas là en essayant que quelqu'un le remarque. Et puis Dieu, il n'attend pas qu'on vienne lui dire « Hey Dieu, c'est bien ce que tu fais. Vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais. On est d'accord avec toi. » Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de Dieu. C'est bénéfique pour nous. Rien n'est plus précieux que la présence de Dieu. Et on a besoin, nous, de venir vers lui. Regardez ce verset qui s'affiche dans le psaume 22, verset 3. Il nous est dit « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Une autre version dit « Tu habites les louanges d'Israël. » Dites-moi, qui est Israël aujourd'hui? Exact, c'est nous. Nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham parce que nous avons cru en lui. Et on voit ici tout un principe qui nous interpelle. Que tout un peuple, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, d'un peuple qui adore, d'un peuple qui appelle la présence de Dieu. Et voilà ce qui change tout. C'est l'état d'esprit dans lequel je viens à l'église ou rencontrer mes frères et sœurs. On a dans nos temps de culte, le dimanche matin, plusieurs événements. On a un temps, ce qu'on appelle de louange, on a un temps de prédication, on a un temps de Sainte-Cène, où on partage, où on commémore le sacrifice de Jésus, on a un temps d'annonce, bref, il y a différentes choses. Je vous pose une question. À votre avis, sur toutes ces choses-là, quel est le temps le plus important dans notre culte? Est-ce que c'est les chants? Est-ce que c'est la prédication? Est-ce que c'est la Sainte Cène? Est-ce que c'est les offrandes? Est-ce que c'est les annonces? Là, vous n'osez pas parler, vous dites, si jamais je dis une bourre, etc. Tout, on se pose des questions. Alors bien sûr, il y a des petits filous qui me disent, tout est important. Oui, bien sûr, j'en conviens bien et je vous entends. La question, ma question ici, c'est quel est le temps le plus important? Ah, j'entends. Exactement. C'est notre temps de louange et d'adoration. C'est ça. C'est complètement biblique. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec soumission et avec respect. Ça change toute la manière dont je viens. Des fois, il y en a qui disent, « Oh, aujourd'hui, il y a le monde dans l'église parce qu'il y a une batterie, parce qu'il y a une guitare électrique. » Une guitare électrique, absolument pas. Il y a des choses bien plus dangereuses que ça. Et entre autres, des choses qui s'infiltrent chez nous, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. Et l'église ou les chrétiens, alors pas vous Angers, mais il y en a d'autres ailleurs, viennent parce que ils veulent. Oui, c'est vrai que les musiciens chantent bien, etc. Et tout. Il faut que le pasteur apporte un bon message. Il faut qu'il prie pour moi. Il faut qu'il vienne me voir. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il me fasse des câlins. Il faut qu'il me fasse du cocooning. Il faut qu'il me réponde à mes textos. Il faut qu'il soit là 24 sur 24, etc. Quand ça va pas. Oh, yeah. La véritable adoration, et ce que Dieu nous appelle dans le culte, c'est de venir pour lui et pas moi. Des fois, j'ai entendu des gens, il y a des gens, ils sortent et ils disent « Oh, j'ai eu un bon culte aujourd'hui. » Et oh, le culte, il n'est pas pour toi. Est-ce que tu as demandé à Dieu s'il avait eu un bon culte? Est-ce que tu lui as apporté ce qu'il demande? Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu lui as apporté tes offrandes? Est-ce que tu lui as apporté ta dîme? Est-ce que tu t'investis? Est-ce que tu mets tes talents au service de Dieu? Ça, c'est ça que Dieu te demande. Et là, on fait « Oups !» Le culte est pour Dieu. Avoir une bonne vision. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va changer les choses. Quand j'ai une bonne vision et une bonne motivation, quand je viens pas pour recevoir, je viens pour apporter. Je viens pour donner. Je viens pour offrir. Et là, ça, c'est la vraie louange. Ça, c'est la véritable adoration. Et Dieu dit, quand mon peuple vient, et quand il vient dans ces conditions-là, alors moi, j'habite au milieu d'eux. Et mes amis, quand Dieu habite au milieu de nous, les malades sont guéris, les gens sont changés, les cœurs sont restaurés, les foyers sont renouvelés, les vies sont transformées. Parce que Dieu est là. Et moi, c'est ce que je prie pour ça. Juste mon seul désir que ce matin, on puisse comprendre ces choses-là. Réalité. Quand le peuple d'Israël était esclave, ils étaient sous la domination de Pharaon. Et Moïse est venu et il a dit une chose. Et le but de Dieu pour libérer son peuple, pas seulement de l'esclavage. Exode chapitre 7, verset 16, il dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. » Le but de Dieu était que son peuple puisse sortir pour lui rendre à lui un culte. Bien-aimé, c'est juste ça. L'adoration est pour notre bénéfice parce qu'elle nous met en contact avec la présence de Dieu. 1 Chroniques chapitre 5, verset 12, et j'aime partager ça souvent avec les musiciens, il y dit « Lorsque ceux qui sonnaient de la trompette, je vous assure, il n'y avait pas une trompette de trompette. Vous n'en avez pas ici. Okay. Mais souvent, il y avait 80, il y avait 120 trompettes. Oh, je suis sûr que là vous n'avez pas besoin de sono, mais vous êtes à 110, à 120 dB. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est trop fort, mais vous auriez été au peuple d'Israël, juste les cymbales, tout ça. On entendait, et pourtant, ils n'avaient pas de sono, on entendait des kilomètres à la ronde quand ils faisaient des dédicaces. Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. 2 Chroniques 5, 12, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient. Ça, c'est très fort. Il y a ici le fait, et quand on est là avec l'équipe louange, et tous ceux qui chantent tous ensemble s'unissent d'un même accord. Ce n'est pas un accord musical. C'est je suis d'accord avec ça pour apporter, pour offrir, pour célébrer, pour louer l'Éternel. Ils ont fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Donc, je vous dis pas, il y en avait une tonne. Et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Là, quand il se passe ça, qu'est-ce qui arrive? Il nous est dit, la maison de l'Éternel fut remplie de la nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu est venu. Dieu était là parce qu'il était d'accord, parce qu'on venait, parce qu'on s'unissait, parce qu'on était là pour lui. Une adoration collective n'est pas une option pour l'Église. Et je vous encourage vraiment à prendre des temps avec toute l'Église, à louer le Seigneur tous ensemble. La Bible nous dit que quand on se retrouvera là-haut, les myriades de personnes, d'hommes sauvés, etc., loueront l'Éternel, ce sera le bruit comme de grosses eaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais essayez de parler devant un torrent, devant une cascade, devant quelque chose d'énorme, c'est juste impossible. Tous ensemble, pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'attendre le ciel pour vivre ça? Est-ce qu'on ne peut pas le vivre aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, à louer Dieu? La Bible nous dit, poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Ah, ce n'est pas vraiment des cris de joie. On a du mal, hein, avec ça. Pourtant, c'est sûr, je suis sûr, si vous regardez votre équipe de foot favorite ou votre. Et puis quand il y a quelqu'un qui gagne, waouh! Un jour, il y a un pasteur, il dit, j'étais impressionné. Une fois, on a regardé un match de foot avec toute une brochette de pasteurs. On était là. Et puis, quand on les a vus, quand il y avait des matchs, quand les gars marquaient, ouais, génial, ouais! Et puis, ils arrivaient dans l'église. Alléluia, mes frères et sœurs. Soyons libres, vivons la chose. Moi, quand je vois Dieu, quand je fais yes, c'est bon. Une adoration collective. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est celui qui remplit nos cœurs, nos vies. Tout royaume a un roi et a un trône. Le trône de Dieu s'établit, il nous est dit, il siège aussi. Et on voit ici ce verset qui nous est donné dans Ésaïe. Ésaïe a une vision de Dieu, de ce que David décrit ici. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le bord inférieur d'un vêtement? Tous, vous avez un pantalon, une jupe, une robe, je ne sais pas, quelque chose. C'est quoi le bord inférieur de votre vêtement? Vous appelez ça comment? Exactement, l'ourlet, ici. Et on voit que l'ourlet du vêtement de Dieu remplissait le temple. Aujourd'hui, le temple, qui est le temple? C'est toi, c'est moi. On est là, c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Comprenons un peu cette réalité spirituelle pour voir, et ça va nous éclairer sur ce que Dieu attend de nous et comment lui, il conçoit l'adoration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, où est-ce que Dieu se situe par rapport à moi si le bord, l'ourlet de son vêtement couvre ma vie? Où est Dieu? Il est au-dessus. Il est au-dessus. Ésaïe a vu ce que David écrit. Le Seigneur siégeait au milieu des louanges d'Israël. Lorsque nous adorons Dieu, nous nous plaçons dans une adoration, nous nous plaçons en dessous de lui. Et là même où je suis en dessous de lui, alors je peux recevoir. Je me mets sous. C'est ce qu'on appelle, quand on parle de soumission, c'est se mettre sous la responsabilité. C'est se mettre sous. Le trône de Dieu. Quand je suis là, en dessous de lui, automatiquement, je suis béni. Parce que tout ce qui coule du cœur de Dieu, de son trône, automatiquement descend sur moi. As-tu besoin de grâce? As-tu besoin d'un sens de ta vie? As-tu besoin de puissance? As-tu besoin... Tout ça se trouve au trône de Dieu. Et si je suis en dessous de lui, automatiquement, je vais être au bénéfice. Lorsque je l'adore, je viens sous son autorité, je viens sous sa dépendance, je viens sous son règne. Une image très simple, vous êtes d'accord avec moi? Prenez un robinet avec un verre. Vous êtes d'accord? Tous, on a fait ça. Et puis, si jamais on veut boire de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On met le robinet où? Sous le robinet. Enfin, le verre. On met le verre sous le robinet, automatiquement. Et c'est là que... Si jamais tu bouges un peu, je sais pas si ça, moi ça m'est arrivé des fois, puis ma femme elle me parle de quelqu'un, et puis tu dis, ah oui, qu'est-ce que tu dis? Et puis tout d'un coup tu t'aperçois, ah mince, le verre est pas sous le robinet, et tu reviens pour qu'il soit rempli. C'est exactement là pareil. Si tu veux que ta vie soit remplie de la vie de Dieu, mets-toi sous lui. Adore-le, dépends de lui. L'adoration invite Dieu à intervenir dans ma vie. Le tout, c'est de savoir, c'est toujours ça. Est-ce que je le désire? Est-ce que je vis dans mon intimité? Dieu ne force jamais quelqu'un, mais il nous invite. Le psaume 27, verset 4, regardez avec moi, il s'affiche ici. Il est dit, c'est quelque chose de très fort. À chaque fois, je suis émerveillé devant ça. Je demande à qui? À l'Éternel, combien de choses? Une. Que je désire. C'est quelque chose dont j'ai envie, c'est quelque chose que je veux. Je suis sûr que là, Noël approche, s'il y a quelque chose que vous désirez, vous allez le manifester de telle manière que la personne, votre famille, va vous offrir ce que vous désirez, parce que vous en parlez tellement, etc., qu'on dit, bah oui, si on veut lui faire plaisir, faut ça, parce que c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'elle désire. Ici, David dit, je désire une chose, regardez un petit peu, de temps en temps. Non, je le désire ardemment, avec ardeur. Moi, j'ai des petits-enfants. Et suffit que je promette quelque chose. Allez, on va manger au McDo. Purée, c'est fini. C'est rentré, ils te croient. Et tu vas voir l'ardeur qui va déployer. C'est quand qu'on y va? Papy, c'est quand on y va? On y va. Allez, t'oublies pas. Hein. Non, on va faire des courses. Oui, mais quand est-ce qu'on va au McDo? Après. Ouais, mais moi, j'ai faim. Ah, mais attends un peu. Enfin, bref. Mais... Avec ardeur. Et ici, David dit, je voudrais habiter de temps en temps dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie. Toute ma vie. Quand je suis chez moi, quand je suis avec mes enfants, quand je suis au boulot, quand je suis dans mes loisirs, j'habite dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que je suis toujours dépendant de lui. Pourquoi faire? Parce que quand j'habite quelque part, pour pouvoir contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On le voit ici, David nous le place et il nous dit, juste si je viens là comme ça, dans cette dépendance, dans cette soif, dans cette vie, dans cette intimité, je vais voir Dieu. Je vais voir, il y a quelque chose qui va se passer. Accueillons-le à chaque jour. Laissons les portes de notre cœur ouvertes et laissons entrer sa puissance. Savoir dépendre de lui, nous avons besoin de lui, tu as besoin de lui et toutes ces choses vont être là. Nous avons besoin, et c'est vrai que c'est des défis auxquels on fait face, mais dans chaque jour je veux m'en remettre à Dieu. C'est ça, adorons-le. Alors tu vas me dire, oui mais comment le faire? Dernier point, où est-ce qu'on en est? Juste un peu, ça va? Un peu? Combien de temps on a encore? 5 minutes? Ok, 5 minutes, on va aller vite. Comment l'adorer? Bah oui, c'est juste très important aussi, parce que si tu as compris tout, mais comment le faire? Par où commencer? L'adoration commence ici en disant merci. Simplement, c'est comme ça. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez et bénissez son nom. La première étape, c'est d'entrer et de venir et de dire merci. Souvent, on a du mal à ça. D'ailleurs, on apprend ça aux enfants. Mais on vient pour dire merci. On vient avec reconnaissance. On vient pour adorer. Après, il y a des choses et on apporte notre vie, on apporte nos forces, on apporte nos talents, on apporte notre argent pour Dieu. Vous savez, personne ici n'est propriétaire. Nous sommes juste les gestionnaires de ce que Dieu nous donne et nous permet d'avoir. Comment est-ce que tu adores Dieu dans tes finances? Est-ce que tu penses à lui juste à la fin du mois en fonction de ce qui reste? Ou est-ce que tu adores Dieu au départ du mois en disant, Seigneur, je consacre ça pour toi et je te le donne? J'avais un ami qui était étudiant, chrétien, et il y a des étudiants ici. Ouais, tous les étudiants, vous pouvez lever la main. Vous savez que tous les étudiants, ouais, n'ont pas une thune, et c'est toujours difficile. Et c'était son cas. Et il avait vécu son mois, et il lui restait 20 euros pour vivre jusqu'à la fin du mois. Et il arrive à l'église et il se dit, qu'est-ce que je fais? Il aurait pu dire, Seigneur, écoute, tu sais la situation dans laquelle je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas t'offrir ma dîme, je ne peux pas t'offrir une offrande, etc. Tu comprends, tu sais toutes choses. Il n'a pas fait ça. Il a dit, je veux t'honorer avec ce que tu me donnes. Et il avait 20 euros. 10% de 20 euros, ça fait combien? Ouais, c'est sûr que ça ne fait pas grand-chose. Peut-être que la personne qui dépouillait l'offrande a dit, bah, dis donc, celui-ci, il n'est pas très généreux. Mais il a fait de tout son cœur. Lorsque les personnes qui dépouillaient les offrandes ont fait ça, il y avait une enveloppe dans les offrandes. Et il y avait une enveloppe pour le jeune couple en question. Vous savez combien il y avait dans l'enveloppe? Pas tant que ça. Ouais, 200. C'est quand même pas mal, quoi. Pour un gars qui a 20 euros pour finir la fin du mois, tu te retrouves avec 200 euros à la fin du culte. C'est quand même. Dieu a vu, Dieu connaissait son cœur et Dieu avait disposé quelqu'un pour qu'il y ait un don. Je dirais, honore Dieu et Dieu va t'honorer aussi. Il va prendre soin de toi. Il y avait une fois un autre, quelqu'un d'autre aussi, juste pour vous donner ces anecdotes-là et juste pour vous encourager. Quelqu'un, il avait son salaire et puis sur l'ensemble de son salaire, il faisait des enveloppes. Et il avait fait une enveloppe et il avait mis 90% de son salaire dans une enveloppe et puis il avait mis 10% pour l'église qu'il avait mis pour offrir, etc. Et tout. Et puis le dimanche où il est arrivé, il prend, je ne sais pas s'il s'était bien réveillé ou quoi, il vient, il part, ah ouais, je prends l'offrande, il prend l'enveloppe hein, et puis il bénit le Seigneur au moment des offrandes et il met l'enveloppe, etc. Et tout. Et puis il rentre chez lui après pour la semaine, il vient pour chercher, pour aller faire ses courses et tout, et il ouvre l'enveloppe. Il dit, Seigneur, tout est à toi. Et je suis heureux de ce que je t'ai honoré. Savez-vous que ce gars n'a manqué de rien? Et que Dieu l'a béni. Il a fait de son principe de vie cette chose-là, c'est qu'il gardait 10% pour lui et il donnait 90% pour l'Église. Cet homme est devenu un homme d'affaires parce que Dieu l'a béni et Dieu lui a montré. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord cherché le royaume de Dieu, sa justice, et tout lui a été donné par-dessus. Ceci, c'est pour vous encourager. Je ne sais pas si vous avez des difficultés. Ça, c'est de l'adoration très pratique. Et je crois que Dieu nous teste des fois. Des fois, on ne voit pas les choses, on a du mal à comprendre. J'ai vu souvent que les personnes qui avaient des problèmes de gestion de budget et qui n'arrivaient pas à mettre leur dîme ou des choses comme ça, n'ont jamais réussi à bien gérer leur budget et avoir Dieu. J'ai remarqué que tous ceux qui étaient fidèles dans leurs offrandes, dans leurs dîmes, ont toujours été bénis de Dieu et ont toujours réussi. C'est juste un principe divin. Mais je reviendrai pour une autre fois, enfin pour expliquer tout ça. Juste, je termine. Dieu nous dit, et on connaît, quand on parle de l'adoration, on chante, et on a un chant vraiment d'adoration qui est là, qui dit « Oui, prends tout, Seigneur. » Je sais pas si vous le connaissez. Ça fait, je vous l'apprends, c'est un nouveau. « Oui, prends tout, Seigneur. Oh. » Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ah. Et puis, le pasteur et un des leaders vient te voir Et puis, il te dit, écoute, mon frère, j'ai besoin de toi, vraiment, faut que tu viennes m'aider, parce que on a un gros projet, etc. et tout. Et viens nous aider. Écoute, il y a un effort ici d'évangélisation, faudrait que tu sois là. Écoute, on a une déco à faire. Écoute, il y a un peu de travaux. Écoute, on aurait besoin de ton temps un peu pour que tu viennes pour faire le ménage. Écoute, est-ce que tu pourrais, on voudrait faire une offrande particulière pour aider les gens de la ville. Il y a un gros besoin, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, là, il y a tout le monde. Et on reprend. Prends pas tout, Seigneur. Prends pas tout, Seigneur. Je veux vivre pour moi-même. Prends pas tout, Seigneur. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais c'est une réalité que je vois dans beaucoup d'églises, c'est qu'il y en a 20 qui bossent pour 80% qui profitent du reste. Soyons des adorateurs, en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu nous dit. Vous savez, Jean, l'évangile de Jean au chapitre 4 détient la conversation la plus longue de Jésus dans la Bible. Et il s'agit ici d'une conversation qui concerne l'adoration entre eux et qui nous donne une clé biblique. Mes amis, peut-être que vous êtes ici, là, pour la première fois, ou l'une des premières fois. Cette femme est venue, elle avait une vie qui était complètement à l'ouest, je dirais, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Et puis, elle avait honte de ce qu'elle était, de la manière dont elle vivait. Quand elle est venue à Jésus, Jésus l'a aimée. Jésus ne l'a pas condamnée, mais Jésus a changé sa vie. Et je voudrais te dire que ce matin, si tu es là, si tu es dans cet état-là, Dieu veut changer ta vie. Jésus a payé pour toi. On est aujourd'hui en 2017, après Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, nous dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu viens, si tu lui dis, oui, je reconnais ma vie, j'ai vécu n'importe comment, j'ai fait n'importe quoi, jusqu'ici, je n'ai pas cru en toi, je t'ai délaissé. Mais aujourd'hui, je veux découvrir le vrai Dieu que tu es. Je veux rencontrer Jésus. Alors, tu vas découvrir vraiment. Cette femme est venue, puis elle a posé une question théologique à Jésus, elle lui dit, oui, mais elle dit, mon peuple adore sur cette montagne, ton peuple adore dans ce temple. Qui a raison? Et souvent, on met un petit peu les histoires de religion, les histoires, les manières de faire en disant, mais est-ce qu'il faut faire comme ça l'adoration? Est-ce qu'il faut que ce soit ci? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un tel? Bref, et Jésus lui dit, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu nous dit ici que l'heure est là et que les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a des faux. Tout est là, c'est comment j'adore. C'est une réalité spirituelle. De l'adorer en esprit, c'est-à-dire avec tout en moi, ce n'est pas juste quelque chose de sentimental, c'est quelque chose de vrai. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Je l'adore en vérité, c'est-à-dire que je ne suis pas éloigné, je ne suis pas un religieux. C'est quelque chose que je fais de façon réelle, de façon pratique. C'est toute ma pensée, il n'y a pas d'hypocrisie. Je ne fais pas comme si, mais je viens tel que je suis. Dieu te connaît et il t'aime tel que tu es. Venez comme vous êtes. Devant Dieu aussi, c'est bon, c'est valable. En recherchant Dieu, vous avez remarqué, le Père cherche des adorateurs. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. C'est-à-dire, il te cherche toi, il te cherche moi, il nous cherche. Pourquoi? Parce que nos temps d'adoration vont être des temps de transformation. Le fait donner, d'offrir, pas seulement le dimanche matin, dans ma vie de tous les jours, ça va être ce que je vais développer dans mon intimité avec Dieu. Quand je vais au travail, quand je gère mes finances, quand je gère toutes choses, je vis avec Dieu, je vis pour lui, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie de tous les aspects. Seigneur, tu es là, je suis à toi. Le matin, je te consacre ma vie. Le matin, je dépends de toi. Le soir, je dépends de toi. À n'importe quel moment, je vis, c'est un changement de l'intérieur. C'est pas juste je sors, puis une fois que je suis sorti de l'église, j'oublie tout. Et je vais vous dire, quand je vis ça, et plus la révélation est grande, plus la transformation dans notre cœur est importante. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Et c'est ce que Dieu veut avec humilité, rechercher Dieu. rechercher Dieu avec simplicité. L'adoration est un acte d'humilité. Je me prosterne devant lui, je reconnais. Quelqu'un qui disait « Je suis humble et fier de l'être ». Je viens simplement. Dieu dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Donc nous avons le choix. Tu as le choix. Comment est-ce que tu vas adorer Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à l'adorer d'une manière exclusive? D'être là avec lui? Le psalmiste disait au psaume 17, « Parce que je suis juste, je verrai ton visage. À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. » À mon réveil, je serai rassasié de ta présence. L'adoration n'est pas un travail, c'est un plaisir. Et je termine avec cette conclusion qui pourrait nous dire, c'est sûr que le but, c'est pas de savoir ce qu'est l'adoration. Parce que tu peux apprendre quelque chose et puis tu peux ressortir et continuer demain, ta semaine, ton mois, comme si de rien n'était passé. Ce qui va changer les choses, c'est que réellement toi, tu vas devenir un adorateur. Et ça, ça va changer ta vie, ça va changer ton entourage, ça va changer l'atmosphère de l'Église. Parce que Dieu va venir et il va habiter dans notre adoration. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vous invite à vous lever à votre place. Et que vous puissiez faire vôtre cette prière. Dire, Seigneur, je viens devant toi avec un cœur profondément honnête, ne cachant rien, ne retenant rien devant toi. Je veux t'adorer en esprit, en humilité, en vérité, avec humilité, avec simplicité. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu connais mes besoins, tu connais mes pensées, tu sais ce que je vis. En même temps, je m'adresse peut-être à quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Dieu. Et tu peux faire cette prière et dire, Dieu, je ne te connais pas encore. Je vois des gens chanter, j'entends ici qu'on parle de toi. Mais si tu existes vraiment, alors viens te révéler à moi. Viens me montrer cet amour dont ce gars parle. Viens simplement devant lui. Tu peux dire au Seigneur, tu sais ce à quoi j'ai à faire face chaque jour. Ma situation de vie, mais je veux marcher dans ta lumière et dans ta présence. Dis au Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne. Je veux pas seulement chanter « Oui, prends tout, Seigneur ». Je veux vraiment le vivre. Je veux être là d'une manière pratique, dans mon investissement, dans mon engagement, dans le fait d'aimer les autres, d'aider les autres, dans le fait de vivre la générosité de ce que Dieu me donne pour bénir son Église. Aujourd'hui, Seigneur, je me place sous toi, je me place sous ton autorité. Je me place sous ton nom, afin qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Afin que tu sois honoré. Afin que, en toute chose, les autres voient. Et qu'on puisse tous ensemble te bénir, t'adorer et te glorifier. On va prendre tous ensemble ce chant qui nous dit « Je te donne mon cœur ». Ce n'est pas juste une question de sentiment, c'est une question de volonté, c'est une question de désir. Et d'être là et de se dire, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que ça change dans ma vie, je veux que ça change dans mon environnement, je veux que ça change dans l'Église, parce qu'on veut te voir. Automatiquement, le Seigneur ne va pas te forcer. Et il n'y aura rien qui changera si tu ne veux pas aller plus loin, si tu ne donnes pas plus, si tu ne lui dis pas, si tu ne l'exprimes pas, si tu offres pas. Parce que c'est ça l'adoration. C'est offrir, c'est donner. Je ne m'appartiens pas à moi. Bénis Dieu de ce que tu es vivant aujourd'hui. C'est une grâce de sa part. Je te donne mon cœur.